Oh là là. Bon, on sera avec.
Bonsoir et buenas tardes. Citoyennes, citoyens, amis, camarades, compañeras y compañeros. On a dit tout à l'heure Joe Salamero, non c'est ou Joachim Salamero ou Joaquín Salamero, au choix. D'accord? Yes. Tous les ans, la Fédération nationale de la libre pensée, dont je rappelle que la méthode essentielle de travail, c'est le libre examen dans tous les domaines, sans aucun préjugé. Et quand on parle de libre examen, c'est-à-dire qu'on est amené à critiquer positivement les religions, leurs églises, etc. Et par conséquent, être amené à défendre, comme l'a bien expliqué dans son introduction Solange Hughes, la laïcité institutionnelle de l'État, et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir, au moins en fin de soirée. Alors tous les ans, la libre pensée, dans son congrès national, fait le choix d'une question à l'étude que tous les libres penseurs sont appelés, s'ils le veulent, il n'y a aucune obligation, à travailler pour qu'elle soit présentée ensuite au congrès suivant. Au congrès national qui a eu lieu, on va dire à Bordeaux, enfin à la Vallée Bordelaise, au mois de juillet dernier, la question qui a été choisie est celle-ci, que je vais livrer dans son intégralité. La République a toujours voulu, comme tout pouvoir politique, une pédagogie scolaire particulière destinée à ses propres objectifs. Ces objectifs furent pour la Troisième République, républicaine, laïque, démocratique, mais aussi militaire et colonialiste, avec une pointe de social. En opposition, le mouvement révolutionnaire, ouvrier, libertaire, syndicaliste, pédagogiste, a initié souvent des contre-projets sur la base de la liberté individuelle des enfants, régie en indépendance ou face à face à la volonté des parents. À l'heure où l'école publique est démantelée, il convient de se reposer des questions fondamentales. Le débat ne reste-t-il pas entier? Quelle instruction? Avec quelle pédagogie et pour quelle émancipation? Et moi je remercie la Fédération de l'Aveyron de la Libre Pensée d'avoir choisi pour participer à ce travail d'étude qui sera prolongé par d'autres travaux de la Fédération de l'Aveyron, d'avoir choisi quelqu'un dont on rappelait tout à l'heure, dont on parle plus beaucoup, Francisco Ferrer y Guardia, libre penseur, anarchiste, franc-maçon, surtout connu comme étant le fondateur de l'école moderne dont on a parlé. Est-ce que ces méthodes donc sont encore valables aujourd'hui? Ou au moins, est-ce qu'on peut en tirer quelques enseignements au moins pour aujourd'hui, en précisant qu'il faut indiquer dans quelles conditions politiques, économiques et sociales son expérience a commencé? Dans quel système politique il les a appliqués? Nous dirons quelques mots donc sur sa vie, sur son œuvre, sur son enfance rapidement. Nous parlerons de sa motivation profonde et, en deuxième partie, en fait, dans mon plan à moi, de ses méthodes essentielles pour l'instruction des enfants. Alors, je ne vais rien inventer parce que, en ce qui concerne Francisco Ferrer y Guardia, a toujours énormément travaillé sur ce sujet, dont les documents ne manquent pas. Je n'en ai porté quelques-uns, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout lire. C'est simplement pour avoir quelques références sous les yeux. Et c'est ainsi qu'en l'an 2009, pour le centenaire de son exécution, parce qu'il faut se souvenir qu'à cause de ses convictions et à cause de ses réalisations, le 13 octobre, j'allais dire 2009, le 13 octobre 1909, dans les procès de Montjuïc, Francisco Ferrer y Guardia a été fusillé, et je le dis d'entrée comme ça, sur ordre de la hiérarchie catholique, avec l'approbation du pape du Vatican de l'époque. Donc, dans l'année 2009, en France, pour le centenaire, et pas seulement en France, mais essentiellement en Belgique, en Italie aussi, en France, et même en Espagne, bien entendu, nous avons commémoré, célébré et travaillé sur Francisco Ferrer. La Fédération l'a eu repensé. En France, a organisé au moins une dizaine de conférences publiques à travers le pays. Il y a eu plusieurs noms de rues qui ont été, excusez-moi de l'expression, rebaptisés Francisco Ferrer y Guardia. Et sachez qu'en France, il existe, je crois bien, si je ne me trompe pas, 157 places ou rues ou salles de réunion, notamment dans les bourses du travail, qui portent le nom de salles ou de la plupart des gens ne savent pas pourquoi. Donc, il est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est fait. Ces réalisations ont eu lieu essentiellement entre les deux guerres, essentiellement par des municipalités de gauche ou par des organisations syndicales en ce qui concerne les bourses du travail. Il existe aujourd'hui dans la libre pensée plusieurs groupes, notamment à Paris, qui s'appellent le groupe Francisco Ferrer y Guardia. Nous allons donc examiner ce qui s'est passé, et je retiens ce qu'a dit notre ami, dont j'oublie le nom, qui est intervenu le premier, debout, là. Oui, oui. Il a été fusillé le 13 octobre 1909, et 91 ans plus tard, c'était très exactement en février 2000, un grand quotidien français, du soir, c'est-à-dire Le Monde, a publié tout un dossier sur le courant de l'éducation nouvelle, je cite, apparu au tout début du siècle, et les pédagogues Montessori, De Croly ou Freinet, Francisco Ferrer n'est même pas cité. En revanche, dans ce dossier, une place entière est consacrée à l'école autogérée de Sumerail, dont le fondateur, Nail, rappelle, Le Monde expliqué, les livres sont ceux qui comptent le moins à l'école. C'est une position à l'exact opposé de celle défendue par Francisco Ferrer jusqu'à son dernier souffle. Et nous allons y venir. Je passe rapidement sur son enfance pour dire que dès qu'il est pratiquement encore adolescent, il commence à militer dans les mouvements républicains et libre-penseurs à l'Espagne, à Barcelone. Il sera initié franc-maçon en 1884 à la Loge Vérité. Il débute son action politique dans le Parti républicain fédéral et il participera à la première tentative de soulèvement républicain contre la monarchie en septembre 1886. Et comme c'est échoué, il fera partie de ceux qui seront obligés de s'exiler. Et à Paris, il commencera à être le secrétaire d'un dirigeant du Parti républicain en exil, Torrilla. Il donne également des cours d'espagnol à l'association philotechnique et au lycée Condorcet. Au cours de ce séjour, et je ne vais pas rentrer dans les détails, parmi ses élèves, il fait une rencontre déterminante pour son œuvre. Il se lie d'amitié avec une jeune personne, Mademoiselle Meunier, ne m'en demandez pas davantage, et cette relation, parce qu'elle va décéder, se conclura par un héritage. Mais il avait une condition à son acceptation vis-à-vis de la famille Meunier, qui elle a des convictions catholiques. Cet argent sera consacré dès son retour en Espagne à l'organisation d'un nouveau système d'enseignement et d'éducation populaire. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, deux mots quand même aussi pour dire qu'à ce moment-là, l'instruction publique en Espagne est dans un état de misère épouvantable. Et l'essentiel de l'enseignement est sous le joug de l'Église catholique. Quand je dis un état épouvantable, il y a un proverbe espagnol à l'époque qui disait « Tu es aussi maigre qu'un maître d'école ». L'Espagne, il faut le rappeler à ce moment-là, est sous un régime monarchique clérical, à peine pré-capitaliste. La bourgeoisie espagnole n'a même pas encore commencé sa révolution industrielle et encore moins sa révolution politique. N'oublions jamais que l'Espagne est un des pays où il n'y a pas eu 1789 et les suites. Un de nos amis a pu écrire Peut-être que quelques anciens, s'il y en a dans la salle, se rappellent de notre ami libre-penseur Aristide Lapeyre, qui dans une brochure a écrit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1789 a ébranlé une grande partie de l'Europe, sauf en Espagne, où les prêtres veillaient. Et ils veillaient bien. C'est donc néanmoins, il se constitue déjà un certain nombre d'associations, de sociétés de libre-pensée. Le mouvement libre-penseur s'organise, à côté d'autres mouvements révolutionnaires et progressistes. C'est ainsi qu'en 1889, à un congrès international de la libre-pensée, 60 sociétés de libre-pensée d'Espagne sont représentées. Tout ça pour brosser très rapidement le tableau de la situation à laquelle est confronté non seulement Francisco Ferrer, mais tous ceux qui, en Espagne, cherchent à sortir de ce système moyenâgeux et à essayer de développer ce qu'on appelait ici et là-bas aussi los ilustrados, l'illustration, la philosophie des Lumières. Francisco Ferrer a écrit un certain nombre de choses déjà à ce moment-là, et ce qui fonde sa conviction, c'est l'expression suivante. Je cite, « Rien ne sert de vouloir transformer la société, soit par la violence, soit par la réforme, si cette transformation n'est pas faite par des hommes d'esprit libres, instruits, débarrassés des préjugés et des dogmes. Il faut s'attacher d'abord à instruire pour que grâce à la raison et à la science, c'est-à-dire grâce aux connaissances, les hommes soient capables de construire leur propre destin individuel et collectif. » Il est évident qu'une telle conception qu'il va chercher et qu'il va mettre en pratique a de quoi heurter tous ceux qui gouvernent politiquement, religieusement l'Espagne à ce moment-là. Mais il faut préciser qu'en ce qui concerne les convictions de Ferrer, qui vont déclencher contre lui une répression féroce, c'est qu'il rajoutera, au fur et à mesure que sa pensée se précisera dans les quelques années qui suivront, que l'autre idée clé de Ferrer est qu'il ne servirait à rien de libérer les écoles, et ça c'est un débat, il ne servirait à rien de libérer les écoles du dogmatisme religieux pour les soumettre ensuite à celui de l'État. Et nous allons voir dans quelques instants que le développement avec ces méthodes, je vais y venir, mais je pose déjà cette affirmation, c'est que 30 ans plus tard, en 1936, ce seront surtout et en premier lieu des hommes et des femmes formés à cette école moderne, qui prendra aussi le nom d'école rationaliste, qui prendront les armes pour défendre la République face au coup d'État fasciste. Et je le dis, mais ça aussi, ça peut faire débat, sans attendre les ordres de l'appareil d'État républicain qui tardait à venir, surtout dans les premiers jours, et permettant ainsi par leur initiative de bloquer les troupes franquistes. Alors, revenons en arrière, la première école moderne voit le jour en 1901 à Barcelone. Il faut préciser qu'elle voit le jour et qu'elle se développera dans d'autres écoles avec le soutien, surtout en Catalogne, du mouvement syndical ouvrier, notamment de son courant anarcho-syndicaliste, très important en Catalogne, courant qui constituera en 1910-1911 la puissante Confédération Nationale del Trabajo. L'école moderne a également le soutien du mouvement au début, du mouvement progressiste, républicain et libéral libre-penseur, qui appuie la création de ces nouvelles écoles, qui sont des écoles privées, et je vais y revenir, vu les conditions dans lesquelles, comme on l'a déjà dit, se débat le système d'éducation publique. En ce qui concerne, pour préciser davantage les conceptions de Ferrer, je crois que le mieux c'est encore de le citer. Ce n'est pas la peine d'essayer d'argoter autour de ce que pensait ou disait Ferrer. Il faut lire ce qu'il a écrit. Dans le premier bulletin, parce qu'il y aura un bulletin qui s'appellera l'école moderne, dans le premier bulletin publié, il précise la mission de l'école moderne. consiste à faire que les garçons et les fillettes qu'on lui confie, précisons que c'est le niveau primaire, hein, consiste à faire que les garçons et les fillettes qu'on lui confie parviennent à être des personnes instruites, probes, justes et libérées de tout préjugé. Pour cela, l'école moderne développera et dirigera les aptitudes propres de chaque élève afin qu'avec la totalité de sa propre valeur individuelle, non seulement il soit un membre utile à la société, mais qu'en conséquence, il élève proportionnellement la valeur de la collectivité. Elle enseignera les véritables droits et devoirs sociaux en conformité avec la juste maxime « Il n'y a pas de droit sans devoir, il n'y a pas de devoir sans droit ». Cet enseignement n'accepte ni les dogmes, ni les usages, car ce sont là des formes qui emprisonnent la vitalité mentale dans les limites imposées par les exigences des phases transitoires de l'évolution sociale. Nous ne répandons que des solutions qui ont été démontrées par des faits, des théories ratifiées par la raison et des vérités confirmées par des preuves certaines. L'objet de notre enseignement est que le cerveau de l'individu doit être l'instrument de sa volonté. Nous voulons que les vérités de la science brillent de leur propre éclat et illuminent chaque intelligence de sorte que, mise en pratique, elle puisse donner le bonheur à l'humanité sans exclusion pour personne et sans privilège odieux. Les écoles, ce n'est pas d'ailleurs sans rappeler, puisqu'on parlait de Condorcet il y a quelques instants, une des célèbres formules de Condorcet, qu'est-ce que j'ai dit moi? De Condorcet. Je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas dit autre chose à la place. Non, 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 parce que ça peut arriver. Hein. Condorcet qui disait, tant qu'il y aura des hommes qui, oubliant leur raison seule, recevront leur opinion d'une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auraient été brisées. Le genre humain n'en resterait pas moins partagé en deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle des ceux qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. Et il rajoutait, et ça aussi ça mérite discussion et réflexion, en général, tout pouvoir, de quelque nature qu'il soit, en quelques mains qu'il ait été confié, est naturellement ennemi des Lumières. Ça correspond, comme on l'a dit en introduction, très exactement à ce que pensait Francisco Ferrer et ce qu'il a pratiqué dans ses écoles. Les écoles modernes, parce qu'il y en a plusieurs qui sont ouvertes après, sont mixtes et si c'est vrai que la mixité avait déjà fait école à Saint-Puis ou chez Paul Robin, etc. en France, en Espagne c'est une véritable révolution. Que les fillettes et les garçons soient dans la même classe, c'est une véritable révolution. C'est un de ces éléments qui va mettre le plus en cause l'ordre établi. Il n'y a ni récompense ni sanction. Mais précisons que si on dit que l'enfant est libre, pas à 100%, c'est pas la notion de l'enfant roi qui vient à l'école et qui fait ce qu'il veut quand il en a envie et qui ne fait rien s'il n'en a pas envie. Je vais y revenir. Il n'y a ni récompense ni sanction, mais en revanche, contrairement à ce qui se passera et ce qui se passe aujourd'hui encore dans quelques tentatives en France par exemple, d'écoles dites privées, mais complètement libérées, en dehors du système public, ni les enfants, ni les parents des enfants participent à l'élaboration des programmes qui restent sous le contrôle et la décision entière des instituteurs. Et tant pis pour les, mais je dis ça en m'amusant un peu, les régionalistes ou les indépendantistes catalans, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, Francisco Ferrer précise ceci, parce que l'enseignement, vous vous rendez compte, en Catalogne, à Barcelone, l'enseignement se fait en catalan, en espagnol, dans les écoles rationalistes et modernes de Francisco Ferrer. Et il écrit ceci. Quelqu'un inspiré par des petitesses de patriotisme régional, je dis que tout se discute, hein, me propose que l'enseignement se fasse, se donne en catalan, rapetissant l'humanité et le monde aux quelques milliers d'habitants qui vivent dans ce coin de l'Èbre et des Pyrénées. Il écrit ça en 1901, le jour de l'ouverture de sa première école moderne et rationaliste. Ça veut dire que c'est un universaliste, c'est un humaniste. Et il refuse que les enfants, dès leur plus jeune âge, soient conditionnés, comme il dit, par les servitudes de la vie, les traditions, etc. Et précisons également que la pression pour que ça soit écrit en catalan viendra beaucoup plus de la haute bourgeoisie que l'on y éclairait, plus ou moins voltairienne, catalane, et que notamment le président des patrons barcelonais, des patrons de l'association patronale catalane, a insisté pour que l'école, que les cours se fassent en catalan, en opposition au centralisme, y compris de sa monarchie, de la monarchie religieuse, etc. Mais les écoles modernes n'étaient pas des écoles d'État. Et pour les faire fonctionner, il fallait de l'argent. Matériel, instituteur à payer, institutrice, etc. Alors là, il y a une affirmation de Ferrer qui peut être, comme tout d'ailleurs, discutable. Il écrit « Les ouvriers doivent comprendre que même s'il leur faut s'imposer des privations pour arriver à vivre, ils ne doivent pas rogner sur la part réservée à l'instruction. » On pourra y revenir. De 1901 à 1906, en 5 ans, au moins une cinquantaine d'écoles modernes et rationalistes, surtout en Catalogne, sont ouvertes. Il faut considérer que c'est un succès considérable compte tenu des conditions politiques du moment. Et pour donner un exemple du caractère de Ferrer et ses amis, le groupe de l'école moderne veut donner, le 12 avril 1906, c'est le vendredi, saint pour les uns, dit saint pour d'autres, dont les libres penseurs sont. Les uns disent que c'est le vendredi saint, nous on dit que c'est le vendredi dit saint, et les plus méchants d'entre nous disent que c'est le vendredi malsain. Ça, c'est notre débat. Le 12 avril 1906, l'ensemble des écoles modernes de Barcelone et des environs organise une fête à laquelle vont participer 1700 élèves et leurs familles. Cette manifestation, évidemment ouvertement anticléricale, va déclencher les foudres de l'État, de la hiérarchie catholique et de l'État monarchiste, mais aussi l'incompréhension, voire une certaine hostilité de quelques milieux républicains, mais modérés. On irait aujourd'hui, par exemple, ici, le centre droit. Tout le monde n'était pas d'accord avec ce que faisait Ferrer, bien entendu. À partir de ce moment-là, nous sommes en 1906, les campagnes de presse se multiplient, les pressions de toutes sortes s'organisent, etc. Et il va se produire un incident qui va donner l'occasion d'une première arrestation de Ferdinand Ferrer de la fermeture des écoles. Le jour du mariage d'Alphonse XIII, il y a un attentat contre le cortège royal, et il se trouve que l'auteur de l'attentat, Matteo Moral, avait été un temps employé à la librairie de l'école moderne. Il n'en fallait pas plus. Francisco Ferrer et les professeurs sont arrêtés, les écoles à la librairie fermées. Parce que je précise de suite qu'en plus de l'école, il y a eu une maison d'édition de l'école moderne, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Je ne sais pas, il faut que je regarde quand même où c'est qu'on en est. Je vois rien, ça ne fait rien. Il est là, c'est bon. Il faut préciser que une maison d'édition de l'école moderne a été fondée. Elle va avoir une œuvre éditoriale, pas seulement des livres de classe, on va y revenir, et un bulletin régulier mensuel de l'école moderne est publié. Donc tout est fermé, les écoles, la librairie et la maison d'édition. Pour donner une idée de ce que pense la hiérarchie catholique, voici ce que dit, ce qu'écrit en 1906 le journal catholique El Corazón de Jesús. Et voici ce qu'ils disent. Qu'est-ce que l'école moderne? C'est un système d'éducation sans Dieu, d'enseignement et d'instruction basé sur des principes libres penseurs, comprenant des écoles laïques, des revues indécentes, des livres dégoûtants, des réunions blasphématoires, des spectacles religieux, des discussions impies. Ces crimes, l'attentat de Matteo Moral, continueront à se produire tant que les Espagnols, écoutez bien, soutiendront la liberté de lire, d'enseigner et de penser, d'où naissent tous ces monstres antisociaux. Nous sommes donc, 5 ans après la constitution des écoles modernes et leur développement, en face là d'une véritable déclaration de guerre. Francisco Ferrer restera emprisonné 13 mois. Il sera jugé en 1907, mais comme cette affaire a eu un retentissement international considérable, que de tous les milieux progressistes européens et même du monde, des écrivains, des syndicats ouvriers, des partis de gauche, les francs-maçons du Grand Orient, les libres penseurs de partout dans le monde se mobilisent, manifestent et exigent la libération de Ferrer, compte tenu aussi que aucun lien direct n'a pu être établi entre Matteo Moral et Francisco Ferrer, le pouvoir recule. Ferrer est acquitté. Il est donc libre, mais il ne reste pas en France, et là, comme la librairie et les écoles restent fermées, il est en exil à Paris, pour la seconde fois. La maison d'édition continue quand même à publier, malgré l'interdiction, ainsi que la revue L'École moderne. À Paris, ils fondent la Ligue internationale pour l'éducation rationnelle de l'enfance. Dans le comité de parrainage, on trouve Anatole France, le savant Ekel, Sébastien Faure, ça doit dire quelque chose à un certain nombre d'entre vous, je pense, Maët Herling, Paul Robin, Charles Malato, Georges Yvetot. On pourra préciser tout à l'heure quels sont ces gens. Nous sommes en 1909. Il rentre en Espagne. C'est le moment où la guerre entre l'Espagne et le Maroc suscite en Espagne, et notamment à Barcelone et en Catalogne, un vaste mouvement populaire de protestation qui se termine, notamment à Barcelone et aux ses environs, par une grève générale organisée par le mouvement ouvrier, notamment sa tendance anarcho-syndicaliste, et une véritable insurrection qui sera matée. Ce sera la Semana Trágica de Barcelone, la semaine tragique. Une répression féroce s'abat sur la capitale de la Catalogne. 2000 arrestations, en plus des exécutions et des perquisitions. Et on cherche des meneurs. Et parmi les arrêtés, les prisonniers, on arrête Francisco Ferrer, qui est dénoncé par la hiérarchie catholique comme étant le responsable, le meneur, le chef de cette insurrection, à laquelle les procès qui auront lieu quelques années après, y compris son exécution, démontreront qu'il n'a participé en rien. Et le chef de la hiérarchie catholique de Catalogne, Monseigneur Cassanes, dans une célèbre allocution, un sermon, un dimanche matin, tiendra les propos suivants. Le principal responsable de ces choses, vous le connaissez, il est bien en évidence. Il agit au vu et au su de tout le monde. Pourtant, la préfecture se tait. La police ne bouge pas, la municipalité non plus. Aucune autorité gouvernementale n'a encore prononcé son nom. Dieu dans ma bouche signalera donc, sans avoir à prononcer son nom dans ce lieu saint, celui qui est le coupable de la puissance accrue du laïcisme et du rationalisme, le véritable déclencheur du fléau, qui ravage notre Sainte Église et qui met à feu et à sang l'Espagne tout entière. Et c'est quelques jours après, je passe sur la dénonciation, etc., Francisco Ferrer sera arrêté. Il sera, quelques jours plus tard, jugé par un tribunal militaire. On pourra parler de la plaidoirie tout à l'heure si nous avons le temps. Il sera jugé le 12 octobre et donc fusillé, comme l'a dit, le 13 octobre au matin dans les fossés de Montjuïc. Il n'y a pas eu de mouvement populaire important de protestation de son arrestation. Le mouvement ouvrier est désarmé après la terrible répression quelques semaines auparavant, de la semaine tragique, de juin 1909. Des dizaines, des centaines de militants ouvriers sont en prison. Plus de 2000 arrestations. Donc tout le monde est un peu désarmé. Par contre, dans toute l'Europe et dans le monde entier, aux États-Unis, en Australie, au Mexique, en France notamment, Paris se lève, plus de 100 000 manifestations dans les rues de Paris, à l'appel des organisations syndicales, de la libre pensée notamment. Après son exécution, le nonce apostolique fait parvenir au procureur du tribunal militaire une épée d'honneur à poignée d'or, sculptée avec les félicitations et la bénédiction du pape Pie X. Je reviendrai dans quelques instants plus tard sur l'héritage de Francisco Ferrer, parce que l'œuvre ne s'est pas achevée à la mort de Ferrer. Mais pour en revenir aux méthodes. Permettez. Il faut que vous ayez le temps de causer. Hein. Mixité. Je cite toujours Ferrer. Mixité. La coéducation des sexes, dont la mixité, la nature, la philosophie et l'histoire enseignent, contre tous les atavismes et préoccupations, que l'homme et la femme sont complémentaires, et la méconnaissance d'une vérité si essentielle a été et de la cause de tant de maux très graves. Il faut donc que fillettes et garçons apprennent à se connaître dès l'enfance et notamment à l'école. Un gros effort est fait, et c'est nouveau aussi en Espagne, et les méthodes modernes, qu'on dit modernes, y compris freinées, etc., quelques années plus tard, à l'hygiène scolaire. Et quand on parle d'hygiène scolaire à cette époque, c'est pas n'importe quoi. Hygiène scolaire renforcée pour l'amélioration des conditions sociales de vie à cette époque. Les professeurs, les instituteurs, les maîtres d'école sont beaucoup plus considérés comme des accompagnateurs que comme des endoctrineurs. Importance aussi accordée à l'éducation des adultes, mais pas à l'école. Pendant la journée, ce sont les élèves. Mais considérant que le processus d'apprentissage, d'instruction ne s'achève jamais, comme le montre d'ailleurs l'évolution de Ferrer lui-même, il est important de maintenir un lien avec les familles et dans les locaux des écoles, après la classe, et en mettant les locaux à la disposition notamment des syndicats ouvriers, des conférences culturelles sont organisées. Dans la mesure où, il faut savoir aussi qu'à l'époque, à cette Espagne-là, l'analphabétisme est extrêmement important. Et ça me rappelle une formule de notre militant français, celui-là, qui fut à la fin du XIXe siècle secrétaire général de la Fédération nationale des bourses du travail en France, Fernand Pelloutier, qui écrivait « Ce qui manque le plus aux travailleurs, c'est la science de leur malheur. » Il faut connaître la société pour qu'on est exploité, pour mieux pouvoir s'armer et se battre contre elle. Et c'est ce que fait Ferrer dans ces écoles-là, le soir, ou le samedi soir, ou le dimanche matin. En ce qui concerne la laïcité de ces établissements, je crois qu'il faut insister sur quelques aspects de la pensée de Ferrer. Et toujours en le citant, il explique, et là on va préciser davantage la pensée de Ferrer, sa conception, la laïcité, comme on l'indiquait tout à l'heure, c'est pas seulement par rapport aux églises et aux religions,
C'est pas seulement la liberté de conscience par rapport à ça, c'est aussi par rapport à l'État. Il dit, ou il écrit, l'école était de tout temps, depuis la plus haute antiquité, soumise non à la volonté de transmettre à la génération montante la somme des savoirs de la génération précédente, mais à celle de l'autorité, à la convenance des classes dominantes, pour former des obéissants et des soumis. Et il va critiquer, et donner une appréciation sur l'école laïque, mais l'école d'État, dans la mesure où la laïcité existerait, comme elle existait par exemple déjà à ce moment-là en France, surtout après la loi de 1905. Dieu est remplacé par l'État, la vertu chrétienne par le devoir civique, la religion par le patriotisme, la soumission et l'obéissance au roi, à l'aristocrate, au clergé, par le respect du fonctionnaire, du propriétaire et du patron. Ça mérite discussion, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Ainsi donc, je crois qu'il faut comprendre la laïcité de Ferrer comme instrument de libération contre tous les dogmes, tutelles, servitudes imposées, quelles qu'elles soient, comme la véritable base de l'émancipation humaine. Je souhaite maintenant aborder, si vous le voulez bien, un autre aspect de l'œuvre de Ferrer. Et je vais faire appel à quelques témoignages. Excusez-moi, j'essaie de mettre un peu d'ordre. Voilà, je vais ouvrir les autres. Voilà. Quelques témoignages. J'ai ici, je ne vais pas tout lire, hein. Voilà. La mémoire de maîtrise d'une amie à nous, Madame Jacqueline Trinquet. Mémoire de maîtrise. L'enseignement à Esparreguera, Catalogne, recherche sur l'école rationaliste, Université de Paris IV, Paris-Sorbonne. Elle nous dit que, née en France en 1944, fille de réfugiés catalans de la guerre civile espagnole, j'ai suivi avec attention, intérêt et beaucoup d'émotion, depuis ma plus jeune enfance, les récits de mes parents et grands-parents maternels sur cette période de leur vie. Parlant de sa mère, elle dit « Ce qu'elle semblait avoir retenu le mieux et qu'elle évoquait toujours avec plaisir et nostalgie, c'était les quelques années où elle fréquenta, à partir de 1932, je vais y revenir sur cette période, l'école rationaliste de Jean Roger. J'aimais écouter les récits du déroulement des cours, les aventures, etc., etc., les sorties au cours des sorties organisées par le maître, Joan Roger, pour qui elle avait une grande admiration. De toutes ces années, j'ai retenu le souvenir émerveillé que ma mère conservait du temps passé à l'école rationaliste en me promettant un jour de comprendre cette école. C'est pour ça qu'elle a fait. J'ai ici, il se trouve que j'ai un beau-frère, que j'avais, parce qu'il est décédé, quand il était gamin et adolescent, il a fréquenté l'école rationaliste moderne, l'école moderne rationaliste. S'il y a des Barcelonais ou qui connaissent Barcelone, la Torrassa, c'était un des quartiers les plus ouvriers de la banlieue de Barcelone immédiate, où le mouvement libertaire notamment était fortement implanté, et où les écoles rationalistes fleurissaient parce qu'elles étaient soutenues financièrement par l'organisation syndicale. On allait au syndicat le soir avant de passer à la maison, Et on cotisait pour l'école rationaliste du quartier. Parce que les écoles rationalistes et les écoles modernes se sont développées, bien entendu, après la proclamation de la République, le 14 avril, c'est bientôt les 80 ans, 31, mais aussi entre la mort de Ferrer et l'avènement de la République, y compris pendant la dictature de Primo de Rivera. Et mon beau-frère, qui avait fréquenté cette école, a aussi un souvenir, je dirais, ému. Il disait, j'ai appris, mais les maîtres savaient se faire aimer. Et ça, je pense que c'est important. Si nous voulions partir de l'école, nous partions. Et nous ne revenions que quand nous en avions envie. Sauf que, si je m'en souviens, mon père était immédiatement prévenu, et le lendemain, bien sûr, je retournais à l'école. C'était pas l'enfant roi. Et il allait à l'école. Et tout ce qu'il a appris, parce que après, Franco est arrivé, donc ça a été fini, bien évidemment, il a appris à l'école rationaliste de Francisco Ferrer. Si vous me permettez un petit souvenir, l'école moderne, parmi toutes ses éditions, a édité, traduit en espagnol par Anselmo Lorenzo, dont je lirai deux mots tout à l'heure, L'homme et la terre, les 6 volumes de L'homme et la terre, l'ouvrage monumental et extraordinaire d'Élisée Reclus. C'est l'école moderne. Et mon beau-frère, avec ces 6 volumes-là, maintenant ils sont chez moi, parce qu'il m'a fait ce cadeau, vous ouvrez cette encyclopédie et vous voyez L'homme et la terre d'Élisée Reclus, édité par l'Escuela Moderna de Barcelona en 1911. Et Odon de Buen, qui était un grand militant de la libre pensée, c'est quand même assez mouvant. En 2009, quand nous avons organisé nos conférences, j'ai reçu de Villanosa Armand, de Béziers, les quelques lignes suivantes. Je vous écris pour vous dire qu'en lisant le dernier exemplaire de La Raison, etc., etc., le journal de la libre pensée, votre commentaire sur Francisco Ferrer y Guardia, le fondateur de l'école moderne, m'a rappelé les souvenirs de mon enfance et l'influence que ses enseignants m'ont apporté dans ma perception du monde et des êtres humains. J'habitais moi aussi dans le barrio de la Torasa avant la guerre, et donc j'ai pu fréquenter la Escuela Moderna. Les enseignants m'ont appris le désir de la lecture, des livres, des connaissances scientifiques, naturelles et la compréhension des autres, lesquels ont toujours fait partie de personnalité. Je ne vais pas vous lire toute la lettre, mais c'est une lettre extrêmement émouvante aussi. Et quand il dit qu'il les apprenait à lire, à écrire et à compter, et pas seulement à jouer, voici ici le programme de l'école moderne, rationaliste, Luz, Lumière, d'Esparella, dont on parlait il y a quelques instants. Lundi, matin, travaux pratiques d'arithmétique, histoire d'Espagne, lecture instructive, astronomie, après-midi, géographie universelle, histoire de la zoologie, botanique, mardi, géographie, sciences, histoire naturelle, agriculture, après-midi, grammaire, géographie d'Espagne, anatomie, phylo-minéralogie. C'est un véritable programme qui est fait par les instituteurs. C'est pas l'enfant, je répète, qui choisit ce qu'il veut apprendre quand il veut. J'y reviendrai dans quelques instants dans la discussion, et je pense que ça c'est aussi très important à signaler. Et puis, les écoles rationalistes se sont développées. Je veux aussi souligner les liens constants, permanents de Ferrer en tant que tel et de ses continuateurs avec, je crois qu'il faut insister là-dessus, avec le mouvement ouvrier organisé, notamment les syndicats d'enseignants de la TNT, mais aussi de l'UGT, les deux grandes centrales syndicales de l'Espagne à ce moment-là. Et puis, il y a eu les continuateurs, et ceux-là en font partie. Et ils ont l'occasion de donner
toute la mesure de leurs possibilités lorsque le 17 et 18 juillet, plus exactement après le 17 et 18 juillet 1936, quand Franco se soulève avec une partie des troupes, etc., et que notamment en Catalogne et à Barcelone, la riposte populaire va être immédiate dès le 19 juillet 1936, les forces populaires vont gagner, le fascisme va être battu immédiatement à Barcelone et en Catalogne, le 20 ou 21 juillet se constitue le comité central des milices ouvrières catalanes, qui, en accord avec la généralité, sera le véritable gouvernement, on va l'appeler comme ça, de la Catalogne pendant quelque temps. Et le 27 juillet, si je ne dis pas... Non. Oui, le 27 juillet, se constitue en Catalogne le Consejo por la Escuela Nueva Unificada, le CNU, le Conseil pour l'École Nouvelle Unifiée. Et dans sa déclaration de principe, ils disent ceci, mais si je le traduis, je crois que je l'ai traduit en français, mais tant pis, je vais le traduire au fur et à mesure. La volonté révolutionnaire du peuple a supprimé l'école de tendance confessionnelle. C'est l'heure d'une nouvelle école inspirée par les principes rationalistes, les principes du travail et de la fraternité humaine. Il faut structurer cette nouvelle école, unifiée, de telle façon que non seulement elle se substitue au régime scolaire que le peuple vient de supprimer, mais qu'elle aussi crée une vie scolaire inspirée par un sentiment de solidarité universelle et en accord avec toutes les aspirations de la société humaine basées sur la suppression de toute classe de privilèges. Il se constitue donc ce comité qui a toute la direction de l'éducation en Catalogne, qui est composé des représentants de la généralité, des organisations enseignantes de la UGT et de la CNT, de professeurs d'université. Alors il y a les commissions, enseignement primaire, secondaire, universitaire, etc. Et ce qui est intéressant à signaler, que le premier directeur, non pas le président, mais le premier directeur de ce conseil sera le professeur Juan Tri Elias, qui est un des élèves de Ferrer, un de ses continuateurs, et qui pendant toute la période de clandestinité avant la République a été l'animateur des écoles rationalistes qui continuaient à se développer en Catalogne. Je pense donc que ça va être l'heure de commencer à ouvrir une discussion, mais auparavant, je voudrais citer deux textes pour la discussion, qui correspondent d'ailleurs à ce que pensait Ferrer. Mais d'abord, entendons-nous. Les écoles proprement dites, dans une société normale, ne devront exister que pour les enfants et non pour les adultes. Et pour qu'elles deviennent des écoles d'émancipation et non d'asservissement, il faudra en éliminer avant tout cette fiction de Dieu, la serviteur éternelle et absolue. Il faudra fonder toute éducation des enfants et leur instruction sur le développement scientifique de la raison, non sur celui de la foi. Le développement de la dignité et de l'indépendance personnelle, non sur celui de la piété et de l'obéissance, sur le culte de la vérité, et de la justice quand même, et avant tout sur le respect humain qui doit remplacer en tout et partout le culte divin. Et je me permets d'insister, écoutez bien, le principe d'autorité dans l'éducation des enfants constitue le point de départ naturel Ça a l'air contradictoire avec ce que pensait Ferrer. Et pourtant, je continue la citation, il est légitime, nécessaire, lorsqu'il est appliqué aux enfants en bas âge, alors que leur intelligence ne s'est pas encore ouvertement développée. Mais comme le développement de toute chose et par conséquent de l'éducation implique la négation successive du point de départ, ce principe d'autorité doit s'amoindrir à mesure que s'avance l'éducation et l'instruction pour faire place à la liberté ascendante. Toute éducation rationnelle n'est au fond que cette immolation progressive de l'autorité au profit de la liberté, le but final étant de former des hommes libres et pleins de respect et d'amour pour la liberté d'autrui. Ainsi, le premier jour de la vie scolaire, si l'école prend les enfants en bas âge, alors qu'ils commencent à peine à balbutier quelques mots, doit être celui de la plus grande autorité et d'une absence à peu près complète de liberté. Mais son dernier jour de leur scolarité doit être celui de la plus grande liberté. Oui, c'est quand même assez commun d'un anarchiste qui s'appelait Michel Bakounine. On ne peut pas dire que ça soit un autoritaire. Alors on peut penser ce qu'on veut de Bakounine, ça c'est une autre question, comme on peut penser ce qu'on veut de Karl Marx, c'est pas le débat ce soir, mais ça veut dire que l'instruction ne se développe pas toute seule. Comment ? C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour s'instruire, et que pour faire un effort pour s'instruire, il faut être accompagné, et que ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et que c'est au fur et à mesure que se développe l'instruction que la liberté peut naître progressivement dans la personnalité de l'enfant qui devient enfant, adolescent puis adulte. Ça me rappelle quand même la formule d'un autre monsieur qui a été président de la société de l'association des philosophes en France, Nubiglioni, qui est décédé maintenant il y a quelques années, et qui disait: il faut aller à l'école pour apprendre un jour à pouvoir se passer de maître. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, ça peut se discuter. Je vous souhaite maintenant que nous ouvrions, je vous propose que nous ouvrions un débat. Cet exposé est forcément incomplet. La vie de Ferrer a été beaucoup plus riche, non seulement dans ses réalisations, mais dans sa vie individuelle et personnelle à lui aussi, que ce que j'ai brièvement expliqué. Quels enseignements pour aujourd'hui ? Je rappelle quand même qu'il a été fusillé par les curés, par la hiérarchie catholique, et je rappelle qu'une des grandes différences entre son expérience à lui, c'est les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, par rapport à ce qu'ont fait d'autres, comme Freinet par exemple, qui l'ont fait quand même, dans une république laïque, où la séparation de l'Église et de l'État était garantie, et dans le système public d'éducation. Je ne vais pas passer sous silence non plus, avant de laisser la parole à la présidente de séance et à la salle, je ne vais pas laisser sous silence non plus que ça s'oppose complètement, et on en parlera tout à l'heure si vous voulez, à ce qui s'est passé par exemple dans une école qui a fermé maintenant, mais qui autour des années 1995 s'est organisée en France, Bonaventure, sur l'île d'Oléron. On verra, on comparera la journée de travail des élèves de cette école, où là l'enfant est roi, avec la différence avec le programme que je vous ai présenté d'une école rationaliste francisco-ferreriste à l'Espagne. Merci de votre attention, la parole est à la salle. Je vous remercie.
Je voudrais peut-être dire que bon, Joseph Lamero a évoqué Célestin Freinet.
Oui.
Et dans le Bassin, il y a eu des écoles Freinet, des classes Freinet. Et j'ai été stagiaire dans une de ces écoles. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont suivi des cours avec un de ces instituteurs qui pratiquait les méthodes Freinet. Moi, pour ma part, il a évoqué des personnes qui ont suivi en Espagne des classes de Francisco Ferrer, de l'École Nouvelle. Moi, pour ma part, je dois vous avouer franchement que stagiaire dans cette école, jamais gardé un souvenir vraiment très, très fort, et qu'elle a, les principes ont accompagné toute ma carrière professionnelle. Voilà. Je voudrais peut-être aussi juste revenir à Condorcet encore, j'aime bien Ferrer, mais Condorcet aussi. Trois points dans ce qu'il préconisait, et on verra que Ferrer suivait bien ça. Mettre les savoirs et leurs agents, c'est-à-dire les instituteurs, à l'abri des pouvoirs civils, politiques, religieux, économiques, mais mettre les citoyens à l'abri du pouvoir des maîtres. Ils avaient certes la liberté pédagogique, mais fondée sur la rationalité avant tout, et non sur l'affectivité, la croyance ou l'utilité immédiate. Et il ne souhaitait pas de monopole d'État. Il pensait que la concurrence extérieure à l'école, pas au sein de l'école, était une très bonne chose. Voilà. Donc, rappelez vos souvenirs, s'il y en a qui connaissaient ces écoles, et puis bon.
C'est jamais. C'est lui qui dit c'est lui.
J'étais aussi en cas d'année où soit normal, un des stages chez Malaterre, qui était instituteur à Sauvage, prélèvement de Panam, dans une petite village, qui avait une classe unique, non ? Et qui pratiquait, donc je vous parle d'un temps, je vous parle des années 60, des années 60, des personnes qui pratiquaient donc une école. J'ai été moi aussi séduit par l'efficacité de ce travail-là, et pourtant je ne découvrais rien parce que je venais de l'Indien. J'avais baigné dans ces idées pendant tout mon enfance, parce que je venais d'un milieu de l'Afrique espagnole, on m'a eu beaucoup parlé, entre autres, de Francisco Pérez et de la liaison entre éducation et émancipation. Ensuite, je partage profondément ces idées-là. Mais affronter ensuite dès l'année suivante, donc à une classe, et pendant 40 ans ensuite affronter les classes qui sont allées dans CE2 au départ à des terminales pendant longtemps, j'ai vu qu'elle était, dans le contexte n'était pas les mêmes, effectivement, qu'elle était l'énorme difficulté en dehors du rapport qu'on pouvait établir, le rapport justement d'autorité ou de non-autorité qu'on pouvait établir à l'élève. L'énorme difficulté qu'il y avait à mettre en pratique dans des écoles à plusieurs classes, donc, et dans ce qu'est le système de l'école laïque en France, à mettre en pratique ce genre de méthode et de principe. Et donc, j'ai toujours lutté sur un système scolaire qui ne permettait pas de les mettre réellement en pratique. C'est quelque chose qui fonctionne très bien dans les classes uniques, en effet. Qui a fonctionné pas le cas de mais c'est le système en France, je pense, qu'on voyait surtout les États-Unis, non pas rentrer peut-être dans ce que des objectifs de l'enseignement en France, la troisième, en fait, on pourrait en parler parce que certainement que l'objectif en France de cet enseignement-là, dont nous avons été des auteurs et des acteurs et parfois, et peut-être quelque part les complices, ne visait certainement pas à l'émancipation totale des individus qui ne passaient pas rien. Qu'on en ait eu conscience ou pas, je crois que quelque part, on n'a jamais bien compris, on n'a jamais bien été capable de viser à l'émancipation des élèves qui nous passent dans le programme. On y reviendra, mais il faudrait qu'on entende.
Mais c'est bien, tu en as parlé.
Mais non, mais il faudrait qu'on continue.
D'accord.
Ça, c'était bien avant l'état mental dans lequel on dit que se trouve l'école aujourd'hui, et pour plusieurs raisons. Ce dont je parle moi, je parle d'années en arrière, hein. Et donc, il faudrait qu'on remette toutes ces idées-là pour voir ce qu'elles ont été, comment elles ont été partiellement appliquées ou pas, et qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour demain, comment on pourrait impulser des choses pour demain. Ah oui, Isabelle.
Oui, mais moi, je voulais dire que c'est intelligent. C'est-à-dire que je n'ai pas été normalienne, mais il m'a semblé que les valeurs que l'école normale essayait de faire passer, c'était assez proche quand même des valeurs naturelles, des écoles. Et par ailleurs, j'ai participé à une époque de Nahuenten à des groupes de réflexion du GFS, du groupe français d'éducation nouvelle, qui essayait aussi d'impulser, de revenir à ça, Et ça n'a pas pris du tout, que ce groupe a été, au bout de 10 ans, il a fait tout sur l'impact négatif pour soi et bien. Donc je me demande s'il y a beaucoup de volonté de la part des enseignants de retrouver certaines valeurs. Je me demande si ce n'est pas en train, les réflexions qu'on a eues collectivement nous amènent à croire que les gens, que les enseignants ne sont plus dans cette optique. Que peu de gens actuellement seraient prêts, même dans un pays de liberté relative, à revenir à des valeurs comme ça. Je pense qu'il fallait des maîtres, il fallait des vocations, et non seulement des journalistes.
Mais ce n'était pas facile d'appliquer ces méthodes-là, justement. Il fallait être extrêmement rigoureux, moi je l'avais constaté donc en stage, et je crois que plus on appliquait ce type de méthode, vraiment plus il fallait de la rigueur. Mais je reprendrai ce qu'avait dit Jean, il parlait des classes uniques, pas seulement, parce que moi dans le bassin ici, j'étais dans une école à 3 classes. Mais évidemment, quand on pratique ces méthodes dans une classe, que ce soit CE2, CM1, si avant ça ne correspond pas un peu, bon, c'est sûr que ça se casse la figure, hein, quelque part. Donc c'est un travail d'équipe aussi.
Vous comprenez quand même que la gestion de cette université dans les classes se faisait très très facile.
Ah oui.
Parce que tous nos détracteurs opposaient le fait que c'était du n'importe quoi. Moi, quand j'ai entendu ce qu'il y avait dans le programme, on le sait, nous connaissons.
Oui.
Je me souviens d'avoir été attaqué sur le programme à lire, et quand j'ai montré tout ce qui était du niveau de ce qu'on appelle maintenant l'évacuation, les collègues tombaient du 17e étage. Parce que c'est facile de s'attaquer sur le fait, oui, ben, au nom de la liberté, de l'épanouissement de la femme, des jardins et des familles. Donc c'est vrai que le fait que cette gestion rigoureuse de la liberté et de l'enseignement était quand même lâchée de cette réussite, ça a été aussi ce qui a fait qu'on a fait capoter.
Oui,
c'est facile de vous attaquer dessus.
Ceci dit, je ne vais pas dire qu'il n'y a fait que la l'éducation.
Comment?
Oui, je m'en veux à l'école moderne, mais on ne nous laissait pas nous réunir dans une école qui formait des équipes. C'est le problème.
Je voulais dire simplement que c'était beaucoup plus facile à vivre dans une classe unique pour les raisons que vient de donner Marie-Laure, c'est-à-dire que dans les écoles à plusieurs classes, si Aristide. Vivez ces idées-là et vous les appliquez, ces élèves s'affrontaient très vite à des ruptures, parce que contrairement à ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, je pense pas que l'école normale préparait à ces valeurs-là, pas du tout. Moi j'ai fait 4 ans d'école normale, je suis né, et ceux qui l'ont peut-être aussi savaient que l'école normale ne formait pas à ces valeurs-là d'émancipation, d'autonomie. Non. L'école normale formait des élèves pour transmettre à peu près le système républicain français et pour former des élites. Or, ce n'est pas du tout le but de l'école rationaliste ou de l'école freinée, ou des méthodes ou des techniques freinées. Ce n'est pas de former des élites, c'est de former des hommes libres. Donc, l'école normale ne préparait pas du tout à ça. Hein.
Ça devait dépendre aussi des directeurs.
Je regrette qu'il n'y avait pas la relation d'élèves de cette école-là, mais ils disent que devenus adultes, ils ont pu réinvestir dans les classes d'occupation.
Il faut parler pour tout le monde. Hein. Je voudrais préciser quelque chose. Hein. À la libre pensée, une fois qu'un responsable de la libre pensée a fait un exposé, bon, mauvais, moyen, etc., après, ce n'est pas la salle avec lui. C'est le débat complètement libre. Hein. Chacun son tour, c'est pour ça qu'il est modérateur. Mais je ne suis pas le gardien du temple à la libre pensée. Hein, de la libre pensée. Hein. Bon.
Ce que je voulais dire, c'est que vous avez évoqué les méthode Freinet, méthode Ferrer, éventuellement, mais la méthode est une chose, n'importe quelle méthode peut être bonne. Ce qui compte, c'est l'esprit que l'on met derrière la méthode. Voilà, et je voudrais dire aussi que toutes les valeurs qui ont été rappelées, qui sont celles de Ferrer et bien d'autres d'ailleurs, actuellement me semblent particulièrement remises en cause quand j'entends le locataire de l'Élysée faire allusion à l'héritage chrétien de la France.
Il n'est
pas allusion aux valeurs lumières, aux valeurs de Condorcet, ni de Francisco Ferrer, ni de rapport.
Moi, je voulais juste une petite chose dans la discussion. Bien entendu, je crois qu'il faut saluer les efforts qu'on fait dans le cadre de la République française, la troisième, la quatrième et la cinquième. En fait, c'était peut-être plus facile dans la troisième et au-dessus de la quatrième, toute l'histoire. Je crois qu'il faut effectivement saluer tous les efforts qui ont été faits par les enseignants, les méthodes freinées, les groupes éducation nouvelle, etc. Mais ça veut dire quoi si ça n'a pas pu se développer, si les pouvoirs publics, les autorités ont empêché leur développement? Exactement là, c'est pas tout à fait la même chose que Ferrer, etc. Ça se heurtait de front à la volonté de l'État de ne rien changer au système social. Et ça rejoint le problème de fond. Plus on s'instruit librement, plus on met en danger les structures sociales qui oppressent, qui oppriment. Alors c'est ça la raison fondamentale. Ça me fait penser à un autre aspect de la question, et c'est surtout la dernière intervention qui m'y fait penser, sur Sarko, le locataire de l'Élysée. Il n'a pas inventé la mode, hein. Il accélère le processus de beaucoup de choses qu'on sait, notamment au niveau de l'éducation nationale. Mais si on a 5 minutes tout à l'heure, on dirait un certain nombre de choses, y compris sur la situation actuelle. Parce qu'il y a quand même une force en France qui, malgré ses insuffisances, malgré ses défauts, malgré ce qu'on aurait voulu qu'elle soit, qui ne nous satisfait pas, enfin, qui n'a jamais satisfait la libre pensée en totalité. Mais si on a défendu l'école laïque républicaine avec ses insuffisances, etc., etc., c'est face à une puissance, une institution qui n'a jamais accepté, en réalité, la séparation des églises de l'État et la laïcité de l'école, même de l'école de l'État. C'est notamment en France l'Église catholique. Et alors là, les documents sont... Donc, est-ce qu'il vaut mieux, comment dirais-je, une école laïque? À mon avis, qu'il faudrait récupérer. Parce que, comme on dit, elle en a pris un coup dans l'aile. Qu'il faudrait la récupérer, même avec ses défauts, etc., plutôt que de laisser faire, en disant, c'est l'école de l'État, donc ça ne nous regarde pas, etc., c'est pas intéressant, etc., parce que les autres progressent. Je citais 2 ou 3 exemples sur les problèmes qui nous ont mobilisés à la libre pensée, qui sont un problème de fond. La notion de projet d'école, pas d'école primaire, ça peut sembler sympathique. Mais si le projet d'école est préparé par les enseignants, les instituteurs, les élus de la commune, et la société civile, comme on dit, les associations de parents d'élèves, moi, personnellement, j'ai toutes les craintes sur l'indépendance de l'école et sur l'indépendance pédagogique des enseignants. Or, cette conception du projet d'école particulier à chaque école gardant, comme on dit dans la hiérarchie catholique, son caractère propre, c'est un produit de la doctrine sociale de l'Église catholique. On pourrait faire toute une soirée, toute une nuit là-dessus. Autrement dit, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain parce que l'eau du bain ne nous plaît pas? Bon, c'est une question que la libre pensée pose et se pose. J'ai été, moi aussi, dans ma vie militante, puisqu'il y en a qui ont été à l'école normale et tout, là. Il m'est arrivé d'être président d'une association de parents d'élèves.
à l'FCPE, d'abord dans mon quartier, du temps de cornet un peu, mais surtout au niveau de quand le président s'appelait Andrieux. Andrieux. Alors, moi en tant que président de conseil de parents d'élèves et ensuite secrétaire du conseil départemental, pas président, secrétaire du conseil départemental de la Gironde, je me suis toujours élevé, je dis c'est pas mon boulot de parent d'élèves d'intervenir pour expliquer à l'instituteur comment il nous a enseigné. Parce que c'était ça la table, c'était ça ce qu'on voulait faire à l'époque. La participation des parents dans les conseils d'élèves. Moi, mon boulot de parent d'élèves, c'est de surveiller quand même que l'école se porte bien, d'obtenir davantage de moyens, davantage d'enseignants, davantage de crayons, de gommes, etc., 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 pour que les moyens matériels, pour que ça fonctionne. Mais prétendre entraîner les associations de parents d'élèves à la gestion pédagogique de l'école, moi, j'y vois un certain danger. D'autant que, je me promène toujours quand je vois des trucs comme ça, à l'époque, j'ai quand même sursauté. Quand Jean Andrieux était président de l'FCPE, ça nous a vendu d'ailleurs à l'époque un congrès assez mouvementé. Quand il parle de l'école laïque dans son ouvrage fameux, je ne sais pas si vous l'avez lu, quelques-uns, vous avez dit laïque, point d'interrogation. Je le cite, de la cour de l'école à la cour de la caserne, c'était à peu de choses près le même enfermement. Les rituels quotidiens ne manquaient pas de similitudes, et si après le tambour, la cloche ou le sifflet remplacèrent ici le clairon qui s'obstinait là-bas, cela ne suffisait guère pour faire oublier qu'il s'agissait bien d'un même univers carcéral. Cette condamnation de l'école laïque comparée à la caserne, non mais c'est Jean Andrieux qui a écrit ça. Ça a été toute l'époque où au nom d'une certaine pédagogie, et je le dis en toute indépendance, parce qu'à la libre pensée, on est indépendant, mais on n'est pas forcément neutre, en tant que responsable de la libre pensée, c'était toute une époque où ces conceptions qui démolissaient l'école laïque en tant que telle se généralisaient. Je sais qu'on s'est battu, je vais choquer, mais les libres penseurs, c'est fait aussi pour choquer. Le projet Savary, tout le monde se rappelle le projet Savary, projet qui visait à faire en France un service national unifié de l'éducation nationale. Et la hiérarchie catholique a négocié avec le gouvernement de l'époque, etc., et le projet Savary a capoté. On a souligné que le projet Savary a capoté parce que la hiérarchie catholique s'était mobilisée contre. À ceci près que quand on regarde de près, je ne sais pas si vous l'avez lu en entier, le projet Savary, en réalité, ça faisait rentrer les écoles privées dans l'enseignement public, mais elles gardaient leur caractère propre. C'est-à-dire qu'on privatisait, en fait, l'école publique. Et là, nous avons été quelques-uns, à la Libre Pensée, là, notamment, avec d'autres associations, on dira tout à l'heure. Si c'est ça la nationalisation de l'enseignement, non. Nous sommes restés sur la formule, par exemple, au niveau financement, à école publique, fonds public, à école privée, fonds privé. Et si la fusion des deux écoles projet Savary doit se faire sur la base de la rentrée avec armes et bagages en conservant leur caractère propre et avec la notion de projet d'école avec l'autonomie de chaque établissement, c'était ça le projet. On a dit attention, c'est plus la laïcité, c'est le communautarisme qui se fait. Et puis puisqu'on en est là, puis après, on peut revenir sur les méthodes de Ferrer, de l'école nouvelle, etc.
On va revenir sur le projet.
Eh bien oui, d'accord, cher ami. On est là. Voilà. sur cette offensive contre l'école laïque, aussi imparfaite soit-il. Alors voilà. Attendez. Et voilà. Au moment des accords qu'on a appelés langue cloupée, ministère de l'Éducation nationale et Cloupé, le directeur de l'enseignement catholique. C'est une histoire de sous. C'est vrai que l'État, d'après la loi en vigueur, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, l'État devait des sommes d'argent aux écoles privées, à l'enseignement catholique. Ils ont négocié sur la quantité. Et il y a eu un accord. Alors ça, pour ceux qui ont vécu ce moment-là, je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi je sais que dans les mouvements laïques, quand même, ça a toussé, comme on dit. Ça a toussé. Ce qui fait que le ministère de l'Éducation nationale a été amené à adresser une circulaire d'explication à tous ses subordonnés, à tous les recteurs, etc., etc. Et dans la circulaire d'application, je vous laisse la photocopie si vous voulez, le gouvernement se trouvait face à l'enseignement privé dans une situation fragile en raison du contentieux relatif au forfait d'externat, etc. Alors l'enseignement catholique était mobilisé, une manifestation nationale était prévue le 15 octobre prochain, etc., etc. Nous avions le choix ou de ne rien faire, c'est le ministre qui parle, et de laisser monter la pression de la rue avec le risque de devoir céder à chaud, etc., etc., ou de rechercher un accord et un apaisement avec deux options. Modifier la loi Fallou et traiter le volet social. Alors, il y a eu un accord avec le gouvernement, mais ce que explique la circulaire... Alors, je vais me le retrouver. Voilà. Quelle contrepartie ? L'accord intervenu avec l'enseignement privé va être utilisé pour obtenir des moyens supplémentaires en faveur de l'enseignement public à l'occasion du débat budgétaire. Enfin, ce protocole, en reconnaissant la contribution de l'enseignement privé au système éducatif, permet également d'encadrer dans la durée ces établissements dans une logique de service public. C'est la première fois que dans la République, le service privé d'enseignement était officiellement reconnu comme faisant partie en fait du service public. Et alors, là où mes cheveux et quelques autres cheveux de beaucoup d'amis se sont dressés sur leur tête, l'établissement privé, tout en conservant son caractère propre, doit délivrer l'enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Au total, il y avait pour le gouvernement deux attitudes de gauche possibles dans la gestion de ce conflit. La première, ancienne, consistait à s'appuyer sur une position de laïcité pure et dure. La seconde, résolument moderne, consistait en une lecture de gauche de la loi de Bray. La loi de Bray de 1959, nous avons été 11 millions à signer contre, 350 000 à manifester à Paris pour... Je prête serment à Versailles, je jure de me battre jusqu'au bout pour l'abrogation de cette loi, etc. Et maintenant, on me demande, à cette époque-là, d'en faire une lecture de gauche de la loi de Bray, qui a été une des premières lois, une des principales lois, notamment au niveau financier. Une lecture de gauche de la loi de Bray. C'est celle qui a été choisie par le gouvernement, car elle permet non seulement de prendre acte d'une réalité, mais aussi et surtout de faire prévaloir notre conception du service public de l'enseignement au-delà des seuls établissements d'enseignement public. Qu'on se comprenne bien, nous, c'est pas une question de faire le procès de Pierre, Paul ou Jacques, machin ou truc, comme on dit dans mon quartier. Hein. C'est la réalité dont il faut avoir, je pense, connaissance pour pouvoir se former un jugement sur les situations. Alors, face à ces offensives-là, qui sont toutes dirigées, qui étaient toutes et qui sont aussi aujourd'hui dirigées par, je te donne la parole, par l'Église catholique, entre autres en France, les autres églises suivant tranquillement, ce que fait la première de France quand elle fonce, les autres suivent, on a défendu l'école laïque, malgré toutes ces imperfections. Je voulais apporter ces quelques précisions.
Moi, je voudrais revenir sur les projets et revenir aussi à Ferrer, parce que dans cette méthode, Ferrer utilisait la méthode rationaliste, scientifique, il avait des petits élevages et des jardins. C'était bien des projets, ça aussi. Donc, les projets actuels, moi, je ne sais pas exactement maintenant comment ça se passe, puisque je suis à la retraite depuis plusieurs années. Mais des projets, j'en ai mené dans l'école, sauf qu'ils étaient tous arrimés aux apprentissages, c'est-à-dire au programme. Et que si nous les présentions en conseil d'école où siégeaient les parents, mais non pas pour leur demander de rajouter leur chapitre, pour leur exposer exactement ce que nous avions projeté de faire. En somme, on les informait. Ils avaient pouvoir poser toutes les questions possibles. Mais enfin, je ne sais pas, peut-être ça s'est produit ailleurs, mais ils ne m'ont jamais dicté une partie du projet. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci, Jo.
Non, mais il y en a d'autres, d'après ce que j'ai compris, il y en a d'autres dans la salle. Il y a des noms enseignants.
Jacques,
oui. Je voudrais revenir à. C'était quand, Jean-Andrieux? Ah, écoute, c'était après Cornec. Jean-Andrieux, j'ai pas la.
C'est un Cornet, c'est
alors, attends.
C'était le
76. Elle est rentrée en 6e.
Ça
paraît.
74-75.
Oui,
bah,
d'accord.
Oui.
Après
78. Ah oui.
Ah oui, oui.
Ah non, mais.
Non, mais ça parle, de parler d'une carcérale, mais dans les écoles, on a tous connu là, et on y restait longtemps, dans les écoles. Dans nos écoles, parce que les programmes, parce que les méthodes, je voudrais revenir au problème des contenus de notre enseignement qu'on nous impose peut-être les programmes. Hein. Mais comment évoluer dans cet enseignement laïque que je défends tout aussi fortement que l'aïe repensée, hein, absolument et depuis toujours. Mais il faudrait qu'on s'attaque au problème. Un des problèmes forts, c'est le contenu de notre enseignement. Je vais vous donner quelques exemples, si vous voulez, parce que moi aussi, j'ai des choses qui sont dressées sur la tête, mais pour d'autres raisons, non. Ils se seraient dressés sur la tête pour ces raisons-là. Hein. Mais j'ai une petite fille qui a 3 ans et qui est rentrée en année 6e. Dans un collège moyen, un petit collège de Charente, normal. Un collège. Normal. Je veux dire, donc, dans la norme. Et elle a attaqué son année, donc, avec des tours de pensée, des tâches comme ça, où je peux peut-être juger un peu plus de près, avec l'Antiquité, non. Et donc, les textes de pensée, c'était l'Iliade, l'Odyssée, etc. La première semaine de son entrée en 6e, laissez-moi finir, vous verrez, la première semaine de son entrée en 6e, elle et ses camarades ont eu à chercher qui était Fèvre. Comme les parents sont pères qui ont voté du livre de la cathédrale, ils prennent un papier pour ça.
Ouais. Je connais.
Voilà, ça fait dire, c'est plus un problème affectif que pour l'un de réelle connaissance, et les autres. Alors moi, quand. Fèvre, mais Fèvre, moi c'est une pièce de Racine, mais je ne voyais pas très bien ce que venait faire Fèvre, donc dans la première semaine. Et puis j'ai appris, après en cherchant, que, et après un peu ils allaient étudier les femmes de la Fontaine, ils sont passés par les autres d'abord, et par Fèvre, qui était donc un peu juste grec, ce que je ne savais pas. Et j'étais donc, voyez ce que peut donner cette recherche dans une zone rurale, dans des classes extrêmement hétérogènes, et compte tenu des difficultés qu'on connaît tous, l'apprentissage de la langue, ce qui reste fondamental, bon, l'année s'est passée comme ça avec une procédure, l'année dans 5 ans, une autre part de français. Et premier trimestre, le Moyen-Âge, et donc, l'amour pour toi, l'amour pour toi. On est en 2011. L'amour pour toi. Avec la texte de chrétien de droit, je vois, me rendez compte. Alors, il y en a des parallèles au programme d'histoire qui traite la chevalerie, tout ça. Donc, l'amour pour toi. Deuxième semestre, et là, on a eu des preuves il y a quelques jours parce qu'ils étaient à la maison. Le roman de Renard. Et le roman de Renard, toute l'œuvre du roman de Renard, moi j'ai rien contre le roman de Renard, mais je me pose la question parce que je sais ce qu'est à peu près la population scolaire de cette zone parce que notre fils nous l'explique, mais comment vous voulez que ces gamins-là s'émancipent? J'ai oublié, peut-être le plus monumental, mais ça va dans le même sens, c'est que quand je dis la première semaine tendre, quelques semaines après, vous allez chercher la définition du dictionnaire d'une allégorie. Et les profs, c'est à la fin, c'est bien, c'est un bon prof, attendez, hein.
Il y a des programmes.
Donc, vous allez chercher la définition d'une allégorie. Mais il y a des gamins qui ont peur, ils ont peur des mots, et ils ont donc peur de l'école, ils ont donc peur. Mais comment vous voulez, certains sont des privilégiés, comme certains des nôtres, qui veulent s'appuyer sur le papa, la maman, ou le papy, la mamie, etc. Mais il y en a qui, ça, c'est le contenu de notre école laïque. C'est le contenu de nos programmes. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, on ne résoudra pas.
Mais
peut-être qu'on ne veut pas. On veut que notre système français soit cultivé. Il en sortira un cultivé et 19 seront partis en cours de route pour refléter exclus du système
libéral.
Ça me permet monumentalement grave.
Mais il faut faire le pari aussi que certains peuvent aimer les mots qu'ils ne connaissent
pas. C'est pas ça mon problème. Le problème, c'est que notre entraînement doit s'adresser à tous les enfants. Il y a une majorité d'enfants qui sont de plus en plus défavorisés. Alors bien sûr qu'il y en a, il y a un petit nombre qui va aimer les mots et qui va s'en sortir dans ces mots-là. Mais la plupart,
on
s'aide complètement les Français.
C'est la récré. Là, c'est la récré.
Est-ce que le modérateur peut dire...
Oui, le modérateur à tous les rois. Hein.
Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment actuel, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on est en train de fermer les... Bon, il y avait les écoles normales, ce sont devenues les IUFM. Je ne suis pas trop ennuyeux. Et maintenant, il n'y en aura plus. Si bien que maintenant, avec un bac plus 5, plus 6, on envoie des jeunes sur le terrain, quoi, sans formation pédagogique, sans terrain. Et puis, on sait qu'il y a eu... déjà, ils commencent à faire un bilan. Il y a plus d'un quart de ces jeunes qui arrêtent, qui en parlent en terre, préfèrent aller trier les lettres dans un centre de tri plutôt que de faire ça, parce qu'ils sont dégoûtés, ils sont déroutés. Ça, je dis que là, il y a danger à notre école, c'est-à-dire, et à notre... Et on a avec des gens qui n'ont pas eu... quand même avoir une formation. Et ça, je dis danger, là. C'est danger, et même, je dis danger, et je dis que là, les responsables politiques du pouvoir, de ceux qui voudront prendre, qui veulent avoir le pouvoir, il faut qu'ils s'y penchent sérieusement à cette affaire-là. On va à la catastrophe. Il paraît que cette année aussi, les concours de jeunes qui veulent rentrer dans l'enseignement, ils diminuent, ils ne veulent plus y aller.
Ils sont devenus élèves. Mon mari, le jour de la rentrée, avait deux élèves.
Voilà, alors donc ça va pas. Ça. Alors là, je dis que là, on est vraiment en catastrophe. Et puis deuxièmement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'on peut mettre l'école laïque dans le système Alsace-Lorraine. Ça sort à plein nez actuellement, avec même des cours d'enseignement religieux dans l'école publique, etc. Il y a eu déjà des relents qui commencent à être sur des principes monarchiques d'une certaine époque. À ce qu'il y a eu Napoléon le Petit que nous avons actuellement.
Je voulais dire que le rôle de l'école, et moi j'ai été une rescapée de ce système-là. Si l'école n'apporte pas certaines choses, il y a des gamins, c'est pas obligé qu'ils n'auront jamais les mêmes choses. Il y a des gamins, c'est comme un truc tout bête. Si on n'avait pas nos gamins dans nos musées, jamais ils n'y entreraient parce que donc, il y a des choses pour lesquelles il faut être un peu plus souple que.
Il y a des priorités quand même. Il y a des priorités dans la l'apprentissage de la langue, du français.
Par ailleurs, les maîtresses ne font pas les programmes. Les programmes.
Ah non, mais je ne suis pas un cours de Je n'ai pas mis ma tête, quand il a su qu'il y allait avoir un débat de cours de l'œil sur l'école laïque, c'est notre chroniqueur officiel. Chroniqueur officiel qui écrit comme ça, mais vraiment au gré des circonstances, au fil de la pub, il écrit des textes, donc on a publié une cinquantaine à peu près, mais il continue d'écrire. Et là, donc l'autre jour, il m'a dit si tu veux, je l'ai reposé, c'était innocent, mais j'ai vu le texte là. Alors je vous le lis, ça va permettre, parce que c'est sur le titre est laïcité. Pas que quelqu'un qui a beaucoup écrit sur son enfance à l'école, puis il a compté pourtant très tôt. Hein, mais qui a beaucoup écrit sur l'école. Et qui est un libéraux français, comme il l'a dit souvent. Si vous me lisez le texte qui est là-bas, où suis-je ? Vous verrez qui est Paco, un jour commencez Paco, un jour Hubert et l'autre. Non, un jour Paco et l'autre François. Un jour Paco et l'autre François. Donc, laïcité. Qui aura un jour l'audace, le courage de déclarer haut et fort que la France se doit d'être un vrai pays laïque, comme une religion, avec des commandements et des sourates, une religion ouverte à tous. En prenant simplement comme doctrine la première phrase de la première phrase, tous les hommes naissent et demeurent des mondes droits, filles des dieux punisseurs, promettant cieux, purgatoire et enfer. Liberté, égalité, fraternité, trois mots sur un fronton, sous l'ombre sinistre de la guillotine. Trois mots magnifiques, si dur à mettre en pratique. 1789. Première semaille dans des champs mal préparés. Il aurait fallu labourer encore plus profond pour éradiquer définitivement l'ivraie et la misère. La terreur fut une horreur, ô combien sanguinaire. Mais verra-t-on un jour un monarque quitter de lui-même son trône, distribuer ses prières, partager, un évêque, un cardinal, voire un pape, s'arracher l'anneau du doigt et revêtir la pure du moine pour courir le monde d'un spartiate. Parcourir le monde d'un spartiate en prêchant l'amour de son prochain, arrache celui de Dieu. Un imam, barbu et goûté tout en haut de son minaret, pousser une nouvelle mélopée, appelant tous ses croyants à l'amour, à la fraternité, à la tolérance. Quand, un jour, lointain encore, quand lui-même comprendra enfin que la paix ne pénètre que du projet de la laïcité, appliquer à la lettre, inculquer profondément dans les cerveaux enfantins tous les avantages de la liberté, du partage, du don de soi. C'est comme ce que tu as dit, ça peut se discuter, c'est un texte. Dans Libre, après cela, pardon, je le lis très mal parce que je ne le connais pas, je le lis très mal. Libre après cela à ceux que la vie de. Vous voyez bien. Libre après cela à ceux que la fin de vie angoisse, voire terrorise, de se créer des cieux imaginaires, un dieu, ou des dieux, pourquoi pas, si c'est un dieu pour soi que l'on n'impose pas. J'ai été baptisé. Non, on m'a baptisé et élevé dans les préceptes de la religion catholique, apostolique et romaine, parce que je suis né ici et pas ailleurs. À 13 ans, j'ai décidé de devenir laïque. Plus j'avance dans la vie, plus je suis fier et sûr de mon choix. On me respecte pour ce que je suis, et il est de mon devoir de respecter les autres, tous les autres. Dans le monde actuel, tout semble être fait pour créer et maintenir le chaos. Quelle est énorme, cette corne de discorde qui déverse pêle-mêle, blanc, noir, jaune et soi-disant rouge, religion du multiple ou unique, éclatée par des schismes permanents. Chrétiens, romains, orthodoxes, protestants, coptes, arméniens, baptistes, voire scientologues, musulmans, sunnites, chiites, juifs d'Israël et juifs errants, un groupe couvert de sang, de bouddhistes, crâne rasé et robe safran. Tous générant depuis la nuit des temps, croisades et patois. Myriades d'innocents, victimes de la croix ou du croissant. Empire sur nos écrans et les processions papistes et les imams barbus. Je rêve. Je sais que je rêve. Mais quel beau rêve. J'ai appris moult cantiques et les chanter comme il se doit, mais la paix ne régnera sur notre belle terre que dans toutes les langues, les enfants chanteront encore les paroles de Jean Mina. Honneur et gloire à l'école. Il a appris à l'école parce qu'il nous l'a, sort souvent dans la nation. Nous avons honneur à l'école. Honneur et gloire à l'école laïque, c'est pour confirmer tout ce que vous avez dit, hein, pour la sauver. Honneur et gloire à l'école laïque où nous avons appris à penser autrement, le travail en la paix, le bonheur dans l'union, l'œuvre était nécessaire, elle sera féconde. Et le noble vaisseau muni de ses agrès, superbe et glorieux, s'en ira par le monde répandre la lumière et semer le progrès. Avec quelle joie, quelle fierté, j'offrirai ma vie pour devenir le prophète de la laïcité. Si par ces quelques lignes, un seul cantique a été convaincu, et bien nous serons donc déjà deux élus pour pacifier le monde.
Très bien. Les programmes. Quelqu'un a dit, c'est juste, c'est pas les enseignants qui font les programmes. Au ministère de l'Éducation nationale, vous le savez, un enseignant, il y a une direction des programmes. Alors, il y a dans la direction des programmes, il y a un service. Alors, je dis ça de bête parce que là, j'ai pas mené toute la bibliothèque, là, des circulaires des uns et des autres. Il y a une sous-direction qui s'occupe et qui envoie aux recteurs, aux académies, tous les ans, la recommandation des lectures à faire. C'est pas obligatoire, d'après ce que je crois avoir compris. Et une année, alors il y avait par exemple une année, je vais dire, Victor Hugo, Godefroy de Bouillon, etc., etc., Bayard. Une année, il y a quelqu'un qui a remplacé Victor Hugo et quelques autres par Bertrand du Guesclin, etc., etc. Non, c'était une directrice des programmes. Voilà. Non, comme on va rentrer en campagne présidentielle, en toute indépendance, je ne cite pas de nom. Ah, oui, c'est bien, fraternité. Elle était directrice des programmes, Ségolène. Et c'est elle qui a écrit ça. Et si vous voulez, je vous transmets la circulaire intégrale, vous la faites parvenir, etc. Alors vous comprenez que, comme on dit vulgairement dans mon quartier, peut-être dans les vôtres aussi, de temps en temps, ça gonfle. Bon. Alors, non, sur les programmes, mis à part cet incident, en 1971, ça s'appelait pas le MEDEF, ça s'appelait le CNPF, le Conseil National du Patronat Français, et au cours de leur congrès annuel, ils ont décidé la mise en place d'une commission qui a travaillé pendant un an ou deux, et qui a fait des propositions au gouvernement, au pluriel, au gouvernement, on est en 71, on est en 73, sur les programmes scolaires. Parce que le mot d'ordre à l'époque, c'était il faut apprendre aux élèves, et après aux secondaires, etc., et aux universités qu'il faut rendre autonomes, pour qu'après, puisqu'elles aillent chercher des sous, qu'elles se mettent en cheville avec les grandes entreprises financières, ou commerciales, ou industrielles du coin, il faut que, pour apprendre la vie, il faut que les jeunes enfants, les élèves, apprennent la vie de l'entreprise. Donc ils ont même filé largement sur le contenu des programmes. Et ensuite, en 72, le symposium de Loudun, de l'Église catholique en France, qui a planché aussi sur les programmes. Et
qui a fait des propositions. Alors tout ça, ça a été publié par la Libre Pensée, dans La Raison, dans Ligue des Libres, dans nos revues, etc. Ils ont fait des propositions sur les programmes scolaires, pas seulement pour l'enseignement catholique, pour l'enseignement en général, y compris pour les programmes d'histoire notamment, et surtout les programmes d'histoire, c'est ça qui les intéresse le plus. C'est ainsi que dans un livre d'histoire, des éditions Bayard, vous savez que Bayard, c'est quand même, c'est le premier groupe d'éditions français. C'est la hiérarchie qui contrôle le groupe Bayard. Dans un des programmes, on pouvait lire, bon, vous connaissez l'histoire, les Gaulois, etc., et que le fondateur de la France, c'était Clovis, etc., etc. Des tas d'erreurs historiques qu'a repris l'autre jour le petit, comme vous l'appelez, quelques-uns, là, Sarko, dans son discours du Puy-en-Velay, sur le merveilleux héritage que nous a laissé la chrétienté en France. Donc, ces deux puissances, qui s'appellent le Saint-Père et le Médère maintenant, et l'Église catholique, ont largement influencé sur les éditions des bouquins qui contiennent les points. Alors, bien entendu, l'enseignant, ensuite, il n'est pas obligé de suivre à la lettre. Et après, ça t'amène à la réflexion de ton petit-fils ou ta petite-fille, là, qui te demande à qui c'est faire. Pour vous faire rire un peu, moi, je connais un jeune garçon qui, l'an dernier, était en troisième, et au cours d'un programme d'histoire, c'est tombé à un moment donné sur la Révolution française. La prof d'histoire a demandé, il a été guillotiné, qu'est-ce que vous en pensez? Le gamin a répondu, bon, après tout, il avait trahi, hein, bon, il n'avait qu'à pas trahir. Ça lui serait peut-être pas arrivé. Et l'année suivante, un autre prof d'histoire parlait de la Révolution en Espagne, la guerre civile, etc., dans l'histoire des grands conflits européens. Et le gamin a dit, mais madame, non, c'était madame, la proviseur. Madame, ça s'est pas passé exactement comme ça. Comment? Elle a discuté. Et il lui a dit, mais si mon grand-père était allé, vous l'expliquerez, hein. Il a fallu aller discuter avec la prof d'histoire après, parce que le grand-père, c'était moi. Voilà. Voilà. Et oui, nos enfants sont influencés, ou petits-enfants, parce qu'ils lisent à la maison, et tout ce qu'ils voient, etc., etc. Sur les programmes, je crois qu'il faut donc tenir compte de ces trois éléments. Et puis, je voulais dire aussi deux ou trois choses, mais je ne sais pas si on a le temps. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a, mes chers amis. Oui, on n'a pas de limite. D'accord. Alors, il n'y a qu'à continuer la discussion. Mais sur l'actualité, avant de revenir à Ferrer, aux méthodes modernes, etc., il y a eu le discours de, puisqu'on parle de laïcité, et la laïcité, entre autres en France, elle est par la loi de séparation des églises de l'État de 1905, qui est aujourd'hui depuis plusieurs années en question. Il n'y a pas que lui qui en a parlé, le mercredi 10 mars, il y a quelques jours. Le Premier ministre s'est exprimé à l'occasion de la remise à la préfecture de Paris de 34 décrets de naturalisation, cérémonie, etc., etc. Il a déclaré « La laïcité est un principe intangible ». Ouf ! On pousse un soupir de soulagement. Et puis on continue à lire la déclaration. Comment préserver les valeurs énoncées en 1905 dans une société qui a changé depuis lors? Tiens donc. Jusqu'où peut aller la manifestation des cultes et quel doit être le pouvoir d'encadrement des autorités républicaines? Tiens donc. Selon lui, il ne faut pas toucher à la loi de 1905. Ressoupir de ouf, de soulagement. Mais, a-t-il prévenu, je cite, et c'est pas nouveau, mais il l'a précisé cette semaine en cours. S'il faut envisager des aménagements réglementaires pour mieux faire respecter la laïcité, la dignité des cultes, alors nous agirons. Ça veut dire qu'on peut ne pas toucher, c'est déjà le cas d'ailleurs, à la loi de 1905, mais promulguer à côté des tas de décrets, d'ordonnances si on veut, pourquoi pas, ou de règlements nouveaux, pour autoriser un certain nombre de dérogations à la loi de 1905. Alors, je voulais dire que sur ce terrain-là, la libre pensée qui a, ça nous ramène, je répète, à l'actualité, qui a publié il y a quelques jours une déclaration commune avec la Ligue de l'enseignement, le mouvement Europe et laïcité, le KLL, et avec l'Union rationaliste, les quatre organisations qui font partie de l'international humaniste et laïque, nous avons décidé que s'il faut aller au charbon, on appellera les citoyens à aller au charbon dans les semaines et les mois qui viennent, et peut-être même dans les semaines qui viennent, parce que vous savez que ceux qui nous gouvernent ont décidé, à partir du début avril, de lancer un nouveau colloque, un grand débat sur l'islam et laïcité, etc., etc. Alors, on va aller, comme on dit, au charbon. Pour en revenir sur les derniers mots aussi sur les programmes, là, enfin sur les programmes, sur le débat en général ce soir, il y a eu d'autres expériences d'école semblables, qui ont voulu imiter celle de Francisco Ferrer, en France notamment, mais dans des proportions moindres, parce qu'il y avait l'école laïque, donc il n'y avait pas besoin de se battre pour imposer au moins la laïcité de l'école et de l'État. Et dans des débats qui ont eu lieu ces dernières années, dans la revue La Raison, il y a un ami qui a publié un dossier, tous les mois dans la revue La Raison, il y a un dossier de 4 pages sur un sujet. Et là, ce jour-là, c'était la pédagogie libertaire, comme on aurait pu faire un autre dossier, comme on a fait certains d'autres. Et voici ce que conclut notre ami, qui est un instituteur syndicaliste et membre du groupe Francisco Ferrer de la Fédération de Paris. Il semble en effet illusoire de penser changer la société par l'éducation en faisant l'économie d'une révolution sociale. On m'a dit, on peut changer beaucoup de choses par l'éducation, mais ce n'est pas suffisant. Pour avoir une éducation pleine et entière dans le sens où la voulait, où la préconisait Ferrer, la pratiquait Ferrer, il faut aussi changer les structures de la société. Bien. Mais peut-on appliquer tous les principes, tous les préceptes d'une éducation libertaire dans un régime capitaliste? Prenons par exemple la question des diplômes. Ils sont bien sûr inutiles dans une société socialiste anti-autoritaire, mais aujourd'hui, les supprimer reviendrait à remettre en question, en cause, les qualifications, les statuts, les conventions collectives des travailleurs. C'est quand même une question que je pose comme ça, puis c'est pas forcément avec des réponses aujourd'hui. Autrement dit, on peut vouloir changer beaucoup de choses, et on a raison de le faire, d'avancer. Dans la société actuelle, mais je crois qu'il faut, je pense qu'il faut être clair là-dessus, autant nous pourrons avancer, ça pourra aider à la transformation de la société, sous quelle forme, personne ne va lire dans le marc de café ici ce soir, mais en tenant compte que d'un certain nombre de réalités. Moi, j'étais ouvrier métallurgiste. J'avais une qualification quand j'ai passé mon certificat d'aptitude professionnelle d'ajusteur mécanicien. Mon CAP me donnait droit, avec le CAP à l'époque c'était 3 ans, hein, 3 ans à l'école d'apprentissage, 28 heures de pratique et 12 heures d'enseignement général, technique, etc. C'était pas comme maintenant, les CAP c'est en 2 ans, je crois, ou en 1 an et demi, mais je crois ça. Alors, ça me donnait droit à la première catégorie professionnelle. C'est un acquis qu'il faut essayer de conserver, même si ça a évolué depuis, ce n'est plus les mêmes qualifications. Le diplôme professionnel, quel qu'il soit, légalement, conventionnellement, donne droit à un certain nombre de choses qui permet au salarié, par exemple, de dire à son patron, attention, le diplôme que j'ai avec le travail que j'ai fait me donne ça, il faut me payer à ce tarif-là et pas en dessous. Donc, La lutte contre la notion d'examen et de diplôme, il faut quand même, à mon avis, la tempérer par rapport à ces réalités dans lesquelles nous vivons. Et puis, je vais le dire maintenant pour revenir à Ferrer et à l'Espagne.
Vous savez que le pape a été à Barcelone et à Saint-Jacques-de-Compostelle au mois de novembre dernier. Je ne sais pas s'il a eu ses déclarations. D'abord, il n'a pas eu le succès escompté. Les commerçants espagnols de ces deux villes étaient un peu déçus par rapport aux foules qu'ils attendaient qui ne sont pas venues. Mais je voulais vous signaler deux faits importants qui se sont déroulés. D'abord, les déclarations du pape, ça a été clair. Ça a été pour dénoncer l'anticléricalisme de la Deuxième République espagnole, 80 ans dans quelques jours. C'est vrai que la Deuxième République espagnole, quoi qu'on puisse en penser, son déroulement, etc., a quand même eu le mérite, entre autres, au mois de novembre 1931, de voter, à la majorité du Parlement, la séparation des églises de l'État d'Espagne. Ça ne s'est pas piqué complètement pour des tas de raisons qu'on connaît dans le déroulement, mais enfin, il y a eu ça. Eh bien, il a déclaré, donc, il a dénoncé l'anticléricalisme de la Deuxième République, et il a dénoncé le laïcisme agressif en Espagne aujourd'hui. Attention, la constitution espagnole d'aujourd'hui, elle privilégie quand même la présence officielle de l'Église catholique, elle touche beaucoup d'argent, etc., etc. On peut faire un long commentaire là-dessus. Il revient en Espagne au mois d'août. Vous savez que le Vatican organise tous les 5 ans les journées mondiales de la jeunesse catholique. Et cette année, ça sera à Madrid en août 2011. Il a déjà l'appui logistique, financier, tout et tout et tout, du gouvernement espagnol. C'est acquis, c'est écrit. Et il va y avoir des 100, 250, de 300 ou 300 000 jeunes, comme ils font tous les 5 ans, qui vont venir du monde entier. Je signale que pour le dernier voyage du pape, pour la première fois depuis 1939, il s'est passé 2 événements qu'il ne faut pas négliger à Madrid et à Barcelone. À Madrid, pendant que le pape était là-bas, pour la première fois sur une place publique, 75 associations, l'Opa Laïca, les Libres Penseurs de Madrid, des tas d'associations de défense de l'école laïque, tous ceux qui militent pour la séparation des Églises et l'État, se sont rassemblés en délégation. Ah, ils n'étaient pas des milliers, mais on était, parce que je peux dire on était, à peu près 2000, avec Albacete Laïque, Granada Laïca, les pancartes, etc. C'était la première fois, depuis 1939, qu'autant d'associations se mettaient d'accord pour revendiquer. Plus de religion à l'école, pas de financement public de la visite du pape en Espagne, séparation des églises et l'État, abrogation du concordat, parce qu'il n'est pas encore abrogé. 30 ans, je ne sais plus combien ça fait, soit depuis 75 qu'il est mort, il n'est pas encore abrogé. Et à Barcelone, le 4 novembre au soir, alors la Fédération Nationale de Madrid était représentée, on a porté le salut de la Tuxalia en Espagne, aujourd'hui, parce qu'il y en a des héritiers de Ferrer. Quand vous dites, quand on vous présente comme le représentant de la Fédération Nationale à la Libre Pensée Française, ah, 1789-1905, de suite. Alors après, on discute avec Los Compañeros, on leur explique que 1905, en France, on est en train d'ailleurs, vous vous battez pour l'avoir et nous, on se bat pour le garder. Et on est en train d'essayer de nous la contourner, cette loi de 1905. Et à Barcelone, avec l'appel des mêmes organisations, et surtout de l'Union des Libres Penseurs de Catalogne, ils étaient 5 à 6 000 quand même devant le palais de la Généralité pour les mêmes revendications le soir où le pape était là. Alors à la télévision en France, vous avez vu les 250 ou 300, ils avaient raison, mais c'est pas ça le problème, gays, homosexuels, etc., etc., contre la politique du Vatican sur la contraception, le préservatif, le sida, etc. Alors ça, vous l'avez vu. On l'a vu sur toutes les images et toutes les chaînes. Mais la manifestation laïque, réellement laïque, avec toutes les associations devant la Généralité, vous ne l'avez pas vu. Alors comme il va y revenir, et comme on pense qu'il va recommencer à dire les mêmes choses, et pire encore, le 21 mai, à Toulouse, Toulouse, c'est pas tellement loin de Cazeville, non ? À Toulouse, la Libre Pensée organisera un rassemblement en hommage
à toutes les victimes du national-catholicisme. Au pouvoir en Espagne pendant tant d'années, et en solidarité avec toutes les associations qui en Espagne se battent pour la laïcité de l'État, pas de religion à l'école, etc. Et viendront et prendront la parole à ce rassemblement le camarade Albert Riga, qui est président de l'Union des Libres Penseurs, le camarade Francisco Delgado, son représentant, qui est président de l'association, tout ça à niveau estatal, comme ils disent, hein, au niveau de la nation, qui est président de l'association Europa Laica, et le directeur de la Fondation Francisco Ferrer de Barcelone, qui a une grosse activité. À ce propos, je vous signale que, à l'occasion du centenaire de l'exécution, la Fondation Ferrer à Barcelone a organisé de nombreuses manifestations dans toute la Catalogne, que, enfin, une avenue de Barcelone, qui descend de Montjuïc, qui se, pour ceux qui connaissent, qui descend vers Barcelone, vers la Plaza d'Espagne, s'appelle désormais, ce qui n'avait pas été fait depuis que Franco est mort, Avenida Francisco Ferrer y Guardia, qu'enfin il y a eu une extraordinaire opposition organisée par nos amis du centre laïque belge qui s'est transporté à Barcelone et à plusieurs endroits en France sur Ferrer, l'école moderne, et le journal qui l'a soutenu, qui s'appelait la Huelga Générale, la Grève Générale, etc. Et le 13 mai, le 13 mai 2009, la Généralité a quand même reçu, en grande réception, toutes ces associations qui ont contribué à faire que Ferrer revienne un peu dans l'actualité en Espagne. Je vous signale également que, malgré nos démarches auprès de la mairie de Paris, nous n'avons pu obtenir qu'une seule plaque à poser sur une des maisons que Ferrer a habitées pendant son exil. Par contre, Jean-Paul II, lui, a eu droit à une place, Jean-Paul II, à Paris, et puis le Dalai Lama va avoir bientôt une place à Paris, etc. Enfin, on a quand même obtenu pour Francisco Ferrer une plaque sur la maison qu'il habitait à Paris. Voilà, je voulais vous donner ces informations. Alors, la Libre Pensée d'Haute-Garonne informera largement, et il y aura du monde. Ça se fait en liaison, toutes les associations espagnoles qui existent à Toulouse aux environs sont invitées. Alors, bien sûr, comme il y en a beaucoup, tout le monde ne va pas prendre la parole. Mais ils auront tous une table avec leur presse, etc. Que ce soit ce dont on parlait tout à l'heure avec notre ami la table, le centre de documentation toulousain sur l'exil espagnol, ou l'association pour la mémoire, la récupération historique, etc., etc. Ils sont tous invités. Il ne s'agit pas d'un colloque ou d'une réunion sur l'histoire de la Deuxième République, parce que là, les tendances diverses auraient le temps de discuter, bien entendu, ni sur le déroulement de la guerre civile et de la révolution sociale, etc., mais c'est centré uniquement ce qui peut faire l'unité, l'union de tous les courants et tendances, je répète, l'hommage à toutes les victimes et la solidarité à tous ceux qui aujourd'hui travaillent en Espagne, dans le sens que je pense nous sommes la majorité ici à souhaiter. Voilà ce que je voulais indiquer aussi, en profitant de cette réunion. Et la discussion continue, il paraît qu'on peut...